Vous écoutez France Culture.
France Culture, les matins.
8h24, merci de votre patience. Rudy Broman, invité des matins, président, ancien président de Médecins Sans Frontières, médecin, professeur à Sciences Po. Nous essayons de comprendre et comment décrypter ce que certains appellent la volte-face ou le renoncement de Barack Obama, avec notamment la demande, on va dire, l'aval de son congrès pour savoir si oui ou non il doit y avoir intervention des Américains en Syrie. Nous l'avons rappelé, la presse française commente beaucoup cette nouvelle en disant qu'aujourd'hui le président de la République est biaisé. C'est la partie débat. Brice Couturier, pour ce premier jour, a des soucis de RER. Il n'est donc pas parmi nous, mais rassurez-vous, il le sera normalement comme chaque jour. Il devrait arriver en cours de route. Nous sommes autour de la table avec Thierry Pêche et Stéphane Rosès. Peut-être une première question, alors plus générale et peut-être un poil philosophique, encore que, mais on se souvient que dans La Peau, Malaparte écrit « Tout le monde sait gagner une guerre, tout le monde n'est pas capable de la perdre ». Est-ce que cette question-là, cette phrase-là, résonne, et est-ce que vous diriez au fond qu'il y a aujourd'hui et qui aurait peut-être peur de perdre une guerre, et pas seulement forcément Bachar el-Assad ?
Écoutez, en ce qui me concerne, cette phrase résonne étrangement, parce que lorsqu'on regarde la Syrie d'aujourd'hui, on ne voit pas de gagnants. Il n'y a que des perdants. C'est l'ensemble, c'est le pays, c'est son histoire, c'est sa population avant tout. Qui sont perdants. Donc il n'y aura de toute façon pas de gagnant. Il y aura, il faut le souhaiter, une issue à ce conflit par le biais d'un compromis que peut-être une conférence internationale pourrait aider à obtenir, mais il n'y aura assurément pas de gagnant. D'ailleurs, si ce conflit continue à durer, c'est quand même bien parce que des deux côtés, il y a un appui d'une partie de la population, des deux côtés d'ailleurs. Je parle des deux côtés, il y a plus de deux côtés. Il y a un certain nombre de groupes armés rebelles, il y a le pouvoir en face de l'ensemble de ces groupes, mais ceux-ci, on le sait, sont divisés. Et si le pouvoir continue de tenir après plus de deux ans, après deux ans presque et demi de violence, enfin surtout d'ailleurs, les violences ont considérablement augmenté après un an de conflit, lorsque les groupes armés rebelles ont décidé de passer à une offensive tous azimuts, à une stratégie de renversement par la violence du régime, ce qui a fait basculer, après les violences qu'avait infligées le régime aux manifestants. Mais enfin, sans revenir là-dessus, on sait bien qu'il n'y aura pas de victoire par l'écrasement il me semble qu'on ne peut pas prévoir une victoire par l'écrasement des deux côtés, donc il va bien falloir une négociation, et c'est aussi à cela, c'est même d'abord à cela que la société internationale, la communauté internationale organisée, ONU, organisations régionales, doivent s'atteler si on veut vraiment aider le peuple syrien.
Est-ce que vous pensez qu'on a été peut-être les uns et les autres, les Français, les Occidentaux, les Américains, aussi les Russes ou les Chinois, imprudents, notamment sur la question du langage et sur la question des mots, parce que tout de même on pouvait être surpris à la une du Monde daté de vendredi, je crois, ou de samedi, enfin le fameux entretien avec le président de la République, François Hollande. On peut être surpris d'une phrase comme « il ne s'agit pas de faire vaciller, de faire tomber...
» Il ne s'agit pas de renverser,
le régime syrien. Mais de quoi s'agit-il alors ?
Mais je pense que nous sommes
avec
là
ce terme
devant...
de punir aussi, bon.
Oui, mais justement, il y a deux choses différentes. Moi, le terme de punir me semble excessif. Qui est le maître, qui est l'élève dans la classe internationale? On a un peu trop vite fait de se proclamer maître et de regarder tous les autres comme des élèves turbulents sur les doigts desquels il faut taper lorsqu'ils se conduisent mal. Ça n'est pas comme ça que fonctionne le monde. Ça n'est pas acceptable de la part d'une grande partie du monde. Donc, je pense que ce vocabulaire d'un autre âge doit être abandonné. Par ailleurs, lorsque le président Hollande affirme qu'il ne s'agit pas de renverser le régime syrien, je pense qu'il a raison de faire ce rappel, car nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons ni le droit ni la possibilité de renverser et d'assumer les conséquences d'un renversement du régime syrien.
On a quand même pris moins de pincettes avec la Libye ou avec la question malienne.
En effet, on a pris moins de pincettes et peut-être qu'il est bon de revenir, parce que on a toujours l'impression, en lisant les commentateurs, on a souvent l'impression qu'on disposerait d'une solution, mais qu'on hésite pour des raisons tout à fait discutables, de timidité, de lâcheté, on hésite à la mettre en œuvre. Donc cette solution, on l'a dans les tiroirs, mais finalement, on ne la sort pas. Mais c'est faux. On n'a pas de solution à la situation terrible que vit la Syrie aujourd'hui. Tout au plus, et c'est le sens, en ce qui me concerne, de mon soutien à une réaction militaire face à la situation, tout au plus peut-on marquer la rupture d'un tabou, à savoir l'usage de l'arme chimique, enfin la rupture répétée d'ailleurs, d'un tabou qui est l'usage de l'arme chimique. Donc éviter de banaliser l'emploi de l'arme chimique contre des populations, voilà ce qui est l'enjeu aujourd'hui. Mais résoudre ou hâter la résolution du conflit syrien, ça n'est certainement pas ce qui est en jeu, et renverser le régime, encore moins.
Nous avons au téléphone Burhan Galyoun. Bonjour monsieur Galyoun. Vous m'entendez ?
Bonjour.
Bonjour à vous. Oui. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Conseil national syrien, ou toujours membre politique de ce Conseil. Quel est votre commentaire sur cette actualité, justement donc internationale, mais à la fois américaine, française, et sur l'idée que, de jour en jour, vous voyez, vous, tout de même, que la communauté internationale recule d'un pas chaque fois quant à l'idée d'une intervention, tout de même. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous êtes déçu ? Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous appelez à une autre mobilisation, à une action véritable ?
Non, j'ai envie de rappeler un peu les faits. Les faits, c'est qu'à l'origine de toute cette... C'est plus qu'un drame, de toute cette tragédie, c'est le refus de Bachar al-Assad de céder ou de même négocier ou de réformer son système face à une vague de contestation dont on a vu l'exemple ailleurs aussi dans le monde arabe. C'est ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça, c'est le premier fait. Au lieu de répondre positivement à la demande et aux revendications de réforme et de démocratie, il a commencé à utiliser au départ les armes légères, plus tard l'arme chimique. C'est le premier fait fondamental. Deuxième fait, le monde occidental, non occidental, etc., tout le monde est resté les bras croisés, en regardant ce qui se passe en Syrie. La meilleure des situations, la meilleure des positions. Deuxième position, c'est profiter de cette occasion pour certains pays, la Russie, l'Iran, peut-être Israël, etc., profiter de cette situation pour permettre à Assad de détruire complètement le pays et d'utiliser la Syrie comme une carte dans un jeu stratégique pour l'Iran se défendre contre l'embargo occidental, pour la Russie s'opposer à un adversaire de taille face aux Européens, aux Occidentaux, etc. Les pays du Golfe également, c'est l'occasion aussi de se battre contre leur ennemi iranien. Donc le pays devient un théâtre de conflit qui dépasse de loin, y compris le conflit syrien. Mais dans tout cela, jusqu'à aujourd'hui, le régime n'a essayé même pas une petite ouverture. Il a toujours allé dans l'escalade de force et de la violence jusqu'à arriver à des massacres, à un carnage réel. Et de l'autre côté, le monde a proposé, a échoué d'abord l'Organisation mondiale, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, à cause de la position russe, a échoué à répondre, même à donner la moindre solution. Maintenant, quelle est la solution ? On laisse un criminel de guerre continuer à tuer son peuple ? Ou on trouve une solution ? Quelle est la solution ? Les gens n'attendent qu'une ouverture politique. Et par contre,
François Hollande l'a rappelé au chef de la coalition Ahmed Assijarba, dont fait partie le Conseil national syrien. Il a déclaré une solution politique ne viendra que si la coalition syrienne est capable d'apparaître comme une alternative avec la force nécessaire, notamment de son armée. Alors, est-ce que vous disposez de cette force nécessaire ?
J'ai été avec Jarba et je l'ai entendu évidemment, oui, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a qu'une seule solution. C'est une solution politique, mais solution politique non pas pour consacrer encore et pour réhabiliter Bachar el-Assad et son système fasciste, il faut le reconnaître. Si on pense à... ça ne se déroule pas dans un pays où il y a un minimum de liberté ou de respect de l'individu. C'est un pays fasciste qui a gouverné, et un président ou une famille qui a gouverné toujours par la violence et l'assassinat. Donc, une solution politique ne peut marcher que si elle a été appuyée par la communauté internationale, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, et que si, dès le début, le peuple syrien sache que c'est pour aller vers un système démocratique et non pas pour renforcer un régime fasciste.
Vient d'arriver. Donc,
jusqu'à maintenant, aucune garantie n'a été donnée. On a proposé une Genève 2. Genève 2, en même temps, la Russie, qui est parrain de ce Genève 2, a donné tous les moyens à Assad d'entamer, d'entreprendre une grande offensive pour qu'il puisse gagner sur le terrain et pousser ce que vous appelez, vous, les rebelles, mais ce sont des gens qui se défendent leur vie. C'est des citoyens normaux, c'est pas des terroristes, c'est les gens qui se sont manifestés au départ, qui ont pris des armes pour se défendre, pour pousser ces gens-là hors de Damas, hors de Homs, hors d'Alep, etc. On ne peut pas entrer dans des négociations alors que l'autre partie décide, et dans ses discours, il ne l'a pas caché, décide d'assassiner tout le monde.
Merci, monsieur Galliou, de nous avoir rejoint par téléphone. Bien sûr, nous reviendrons sur ces questions et avec vous plus longuement en studio, j'espère, prochainement. Je signale l'arrivée tardive, mais ça y est, il est parmi nous, de Brice Couturier. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée, bien sûr, Brice.
Bonjour Marc, excusez-moi du retard. Excusez la SNCF aussi, si c'est possible.
Alors, Brice.
Écoutez, moi, j'entends bien que la communauté internationale dont on vient d'invoquer ici la présence, elle est profondément divisée en réalité. On va bien le voir à Saint-Pétersbourg pour le G20. Il y a une guerre civile, il y a une guerre de religion entre sunnites et chiites, entre deux puissances régionales, l'Arabie Saoudite et l'Iran, enfin l'Arabie Saoudite plus la Jordanie et la Turquie. Et moi, je voudrais parler un petit peu de la position du président Obama, qui paraît mal comprise en France. Obama, il n'est ni interventionniste ni isolationniste, il est réaliste. Et face à cette guerre de religion, à cette guerre civile, encore une fois, son but n'est pas de renverser Bachar el-Assad, il l'a dit d'ailleurs, mais de pousser le dictateur syrien à accepter l'ouverture de négociations, à obtenir ce qu'on appelle aux États-Unis une désescalade de la violence qui pourrait ouvrir à des négociations. Mais il a un deuxième objectif qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il veut empêcher la non-prolifération des armes non conventionnelles. Or là, elles viennent d'être utilisées de manière flagrante par le régime de Bachar. Il faut donc lui envoyer un message solide pour lui faire comprendre, un, pour le dissuader de recommencer, et puis aussi envoyer un message à l'ensemble des puissances locales, dont on ignore si elle persiste à vouloir acquérir l'arme nucléaire ou non. Donc il faut bien comprendre que les États-Unis jouent là leur crédibilité. S'ils ne font rien, parce que, par exemple, le Congrès, ce qui est fort probable, ne donne pas son feu vert à Obama, eh bien, les États-Unis ne seront plus crédibles quand ils diront qu'ils veulent empêcher la dissémination des armes non conventionnelles. Et ça, c'est un problème de fond aussi, qui dépasse largement le cadre de la Syrie.
Alors, autour de la table, donc Rony Broman et puis Thierry Pech et Stéphane Rosès. Thierry Broman.
Oui, moi je voudrais revenir un instant sur les raisons qui me semblent expliquer les mois, les réticences, ce qu'on peut qualifier de reculade d'un certain point de vue. Ces raisons, elles me semblent en particulier reliées à l'ensemble des mensonges, des constructions propagandistes qui ont marqué les guerres internationales, enfin les interventions internationales précédentes, du Kosovo jusqu'à la Libye, en passant par l'Irak. Au Kosovo, on a fabriqué un génocide. On a parlé de centaines de milliers de morts, quand en réalité, il y en avait finalement 4000 recensés. Donc on a multiplié par 20, voire par 100, la mortalité, pour dépeindre le régime Milosevic, pour lequel je n'ai pas plus de sympathie que vous, je vous l'assure, mais pour le dépeindre comme le tyran sanguinaire qu'il n'était pas véritablement. Je passe sur l'Irak, chacun le sait, au moins la France a-t-elle eu le bon réflexe de lutter contre cette propagande. Mais en Libye, la destruction annoncée de Benghazi par des colonnes de chars qui allaient déferler sur la ville pour la détruire a été l'un des plus gros bobards que l'on a entendu ces derniers temps. Jamais personne n'a été capable de nous montrer les photos, les images, alors que nous sommes dans le règne généralisé des images de cette colonne qui allait s'abattre sur Benghazi. Et pourtant, tout le monde, en tout cas beaucoup, semble avoir acheté prima facie, si j'ose dire, cette construction. Et on a donc vendu une responsabilité de protéger, une action de secours pratiquement humanitaire, alors qu'il s'agissait de renverser un dictateur. Ça, en effet, c'était bien le cas, mais sous une sorte de faux drapeau moral. Alors, après tout ça, et avec les conséquences que l'on voit, donc le sud de la Libye transformé en nid islamiste, la fragmentation annoncée par un certain nombre de gens qui est à l'œuvre aujourd'hui en Libye. Alors, au terme de cet ensemble-là, il n'y a tout de même pas tellement de raisons de s'interroger. Enfin, je veux dire, les raisons pour lesquelles on s'interroge sur un engagement en Syrie, elles sont solides. Or, malheureusement, en Syrie, l'emploi de l'arme chimique, lui, il est avéré. Enfin, il semble au-delà de tout soupçon. Donc, on paye aujourd'hui, face à une situation véritable, des mensonges qui ont été extrêmement lourds et répétés dans les interventions précédentes.
Est-ce que vous avez un portable allumé, Aurélie Roman?
Non.
Parce que ça grésille. Non. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Très vite, deux interventions. Stéphane Rosès, ou Thierry Pêche, Stéphane Rosès.
Oui, Aurélie Roman, vous insistez sur la question des mensonges antérieurs et donc d'un scepticisme de l'opinion. Mais pour autant, par exemple, lors de l'intervention au Mali, très massivement, les Français ont soutenu, ils savaient guère la différence entre les islamistes et les Touaregs, les terroristes. Bon. Ce qui me frappe quand même, pour reprendre ce que dit Brice Couturier, ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est la tension qu'il y a dans ce conflit, qui explique peut-être le fait que spontanément l'opinion française soit contre, et peut-être d'autres, c'est la tension entre la question des armes chimiques, qui qualitativement donne une escalade et auquel on se dit la communauté internationale ne peut pas ne pas réagir. Et puis le problème de fond, vous l'avez dit, et Brice Couturier l'a dit, c'est que c'est une guerre civile. Et donc si c'est une guerre civile, qui est en mesure de dire le bon camp et le mauvais camp, n'est-ce pas ? Partout où l'opinion française a soutenu une intervention ou une guerre, c'est parce que c'était soit un régime dictatorial qui semblait faire violence à sa propre population, la Libye, que ça soit exagéré ou pas, soit parce que la question de l'enjeu était clair et le but de guerre était clair. Et pour me faire l'avocat du diable, l'opinion que je suis un peu, quand on entend les partisans, tout de suite on dit il faut le faire et tout de suite derrière on dit les complications avalent. Est-ce que c'est pas la question de la guerre civile qui fait qu'il est très compliqué pour l'opinion de dire on y va si on ne voit pas concrètement ce qu'il y a après ?
Je vous demande une réponse courte, René Roman.
En effet, intervenir dans une guerre civile, c'est nécessairement prendre parti pour un camp contre un autre.
Pourquoi prendre parti ? On peut prendre parti contre un dictateur, mais les minorités religieuses qui se sont assemblées derrière lui...
Je regrette, je pense que factuellement, concrètement, je ne porte pas là de jugement. Intervenir dans une guerre civile pour changer le régime et mettre à la place un autre pouvoir, c'est nécessairement prendre parti pour un camp, c'est avoir sa solution de rechange. C'était le cas avec Luceka. Bon, on a installé une sorte de mafia fascisante au Kosovo, mais une mafia amie. Donc, on avait une solution de rechange. Les Américains avaient une solution de rechange très mauvaise, mais ils avaient une solution de rechange en Irak. On semblait avoir une solution de rechange en Libye. Là, face à la Syrie, en effet, il n'y en a de toute façon pas. On entendait tout à l'heure le leader, un des responsables de la coalition nationale syrienne, ce qu'il ne disait pas, et je le comprends très bien, enfin c'est pas de lui qu'on attend ce genre de remarques, mais c'est que l'opposition est extrêmement divisée, qu'elle est fragmentée, qu'elle est balkanisée, et que par conséquent il n'y a de toute façon pas un pôle politique sur lequel s'appuyer, voire que l'on pourrait porter au pouvoir, d'où les hésitations bien compréhensibles des responsables politiques occidentaux qui ne savent pas quelle solution proposer, car, enfin, qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas de solution à proposer. Même une mauvaise solution, ils ne l'ont pas.
Thierry Pêche, dernière petite question.
Oui, je voudrais revenir très brièvement sur les faits eux-mêmes, parce qu'on monte très vite en généralité dans ces affaires-là, et finalement, les faits ne sont pas toujours aussi clairs. Il y a eu usage des armes chimiques, ça ne semble pas faire de doute. C'était à l'initiative du régime syrien, ça ne semble pas faire de doute. Mais de qui dans le régime syrien? Il semble là y avoir des doutes.
Oui, absolument.
Est-ce que c'est Bachar el-Assad lui-même? Et est-ce que, si ce n'est pas lui, ce n'est pas le signe d'un effritement ou d'une division du régime syrien lui-même, ce qui peut-être, du coup, laisserait un espoir, disons, dessinerait un scénario de sortie à cette crise.
Oui, moi, c'est une potentialité que j'évoquais. En effet, on a entendu de Washington que des écoutes avaient permis de voir que certains officiers étaient absolument paniqués, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Bref, que ça pourrait être une initiative locale. Et non pas une initiative du régime. Par ailleurs, le fait que, avec cet usage massif d'armes chimiques, le régime devienne encombrant, quelle que soit la responsabilité, encombrant pour ses alliés, je veux dire, quelle que soit la responsabilité que peuvent avoir des généraux, c'est-à-dire des initiatives locales, ou bien le régime, tout cela peut laisser penser qu'en effet, il y a un certain effritement, qu'il y a des fractures à l'intérieur même. Une fragilisation du régime serait effectivement une bonne nouvelle, car c'est cela qui peut le pousser à la négociation. Et encore une fois, c'est la négociation qui permettra de sortir à un moment de ce conflit, et certainement pas l'usage accru de la violence.